So who would like to be? Très honoré de d'avoir été invité. Cette nouvelle initiative de Bnot Melech. Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui parler donc de Rosh Hashanah, mais avec une vision assez précise qui concerne la place de la femme, ou en tout cas le côté féminin, qui appartient à toutes les fêtes de Tishrei, du mois de Tishrei, d'une manière générale, à la création du monde. Votre initiative est une initiative qui est mevorechet, bénie, car la femme prend une place très importante à la fin des temps. Au niveau de la Kabbalah, nous disons que la royauté d'Israël, qui elle aussi est une femme, va se placer à un niveau supérieur pour justement devenir la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, faire partie de ce projet, c'est quelque chose d'extraordinaire, et si peut-être mon petit côté féminin participe aussi, c'est sympathique. Vous savez que dans chacun de nous, il y a un mâle et une femelle, donc le côté féminin, c'est le côté de la capacité à recevoir, à contenir. Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer que la création du monde, en hébreu, Bria, est comme par hasard au féminin. La Bria est au féminin parce que l'acte de la création du monde, c'est sortir de l'unité divine dans la pluralité de ce monde. Avec des lettres, sortir du Aleph pour arriver dans le Bet. Or, le Bet, si vous voyez sa forme, est une forme d'un cri, d'un récipient. C'est le premier cri de la création. Le Aleph ne se prononce pas. Le Bet, c'est la lettre la plus prononcée. Il y a presque une guerre entre les deux lèvres pour sortir le Bet. Alors que le Aleph est muet, on n'entend pas la lettre Aleph. C'est pas parce que je viens de vous dire Aleph que c'est vrai. Car quand je dis Aleph, j'ai déjà dit trois lettres. Aleph. Aleph, la MDP. Mais le Aleph lui-même ne s'entend pas. Il suffit d'ouvrir la bouche pour commencer déjà à être dans le Aleph. Donc le Aleph est un silence et le T. C'est le plus grand des bruits. Et donc, du grand silence, on arrive au verbe, à l'entendement, à la création. Car pour créer, il faut être dans la dualité. Il faut être dans le deux. C'est-à-dire que l'acte même de la création a créé quelque chose de double. Quand je dis double, je dis au minimum deux, mais en réalité, c'est des milliards et des milliards et des milliards de détails que ce monde contient. Donc l'unité divine a créé des milliards de détails. Ça, c'est l'acte de la création. Or, cette lettre B, qui est comme un pli, est ouverte du côté gauche. Elle est fermée du côté du Aleph. Pourquoi? Comme pour nous dire le Aleph est incompréhensible. Nous, dans ce monde, on peut commencer à comprendre quelque chose seulement si nous sommes deux, au minimum. Et donc, c'est fermé du côté dual, mais c'est ouvert vers toutes les autres lettres de l'alphabet. Je veux dire d'ailleurs que dans le Aleph, toutes les lettres sont contenues, ça c'est évident. C'est-à-dire dans le silence premier, tous les bruits existe, mais réellement au début du premier bruit de bête, eh bien la lettre bête contient elle aussi toutes les autres lettres qui viennent après elle. On est d'accord? Donc le Aleph a créé le B. Et pourquoi il a créé le B? Parce que le B va devenir, est censé devenir, un corps pour le Aleph. Qui dit corps, dit ustensile de révélation. De la même manière que mon corps révèle ma neshama, sinon vous n'auriez pas vu votre chiour aujourd'hui. Donc le fait que mon corps soit là, il a permis à ma neshama de vous parler maintenant. Ce n'est pas mon corps qui vous parle, c'est mon âme qui vous parle et utilise des vêtements de mon corps. On est d'accord, le corps n'a jamais parlé, un œil n'a jamais vu, une bouche n'a jamais dit un son, une oreille n'a jamais entendu. Tout ceci, c'est la neshama qui utilise les membres du corps pour tout ça. La preuve, tout simple, c'est lorsque vous dormez. Vous voyez en les yeux, vous entendez en les oreilles, vous parlez en la bouche, tout est fermé, tout est inactif et pourtant vous faites tout. Vous marchez, vous volez, vous voyagez, vous entendez. Qui fait tout ça dans le rêve? La neshama. Car en réalité, au moment du sommeil, on libère la neshama de son vêtement et elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Donc, les lettres qui suivent le Aleph jouent le rôle d'un vêtement pour la lettre Aleph, pour habiller le Aleph. Comment est-ce qu'on dit un vêtement nouveau? Bégé, ça vient que les trois prochaines lettres. Bézé, guillemets, calme, c'est bégé. Donc le bé, le guillemets et le calme sont un bégé, sont un vêtement pour le calme premier. Donc le calme est créé un vêtement. Ok? Et je peux continuer comme ça à vous raconter tout l'alphabet hébraïque, ce n'est pas le sens du cours, mais ça existe. Ça veut dire qu'en réalité, le corps du Aleph, c'est le Bet Gimel Dalet. De la même manière, la femme est appelée le corps de l'homme. Ishto Kegufo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est censé apporter dans la maison la neshama, et là, la femme est censée prendre cette neshama et lui faire un beau vêtement pour que ce degré élevé puisse rester et se voir dans la réalité terrestre. Donc le rôle de la femme est très important. C'est de traduire toutes les valeurs qui sont potentielles en réalité concrète. Ça c'est un vêtement. Ça c'est un corps. Donc la femme est par définition le corps du côté masculin. Et l'homme est censé respecter son corps comme son propre être. Adam, Yad, Bechabel, et Ishtoke Goufo. Donc, il y a ici un respect du corps, et ça aussi, ça nous ramène à un judaïsme malheureusement un petit peu perdu. On a eu l'impression pendant 2000 ans que le corps ne valait pas trop et qu'il fallait juste donner le côté à l'âme. Dans tout ce que je viens de dire, ça veut dire que la femme n'a pas vraiment une importance dans ce monde. Grâce de Shalom. Le corps est très important dans ce monde et je vais vous dire un petit peu quelque chose qui risque de vous choquer. Il est plus important encore que l'âme. Pourquoi? Parce que le but de toute la création, c'est que les valeurs de l'infini viennent se déposer dans le corps de la création. Donc toute la création du monde est un grand corps. Donc Dieu a créé une femme. Le monde est une grande femme. Car la femme est censée réveiller l'homme, et ici dans ce couple-là, l'homme c'est l'infini, et la femme c'est le monde qui a été créé. Donc le monde tout entier, quel est son rôle? De réveiller les valeurs de l'infini. Et s'il n'y avait pas cette femme, s'il n'y avait pas cette création, eh bien Dieu resterait dans son ciel immense et ne se révélerait jamais dans l'existence. Sauf dans la pensée. Et la preuve de tout ce que je viens de vous dire, c'est l'ultime degré du judaïsme, s'appelle la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? Encore une fois, la Neshama, tu reviens dans le corps. Ça veut dire que le but du judaïsme, c'est de révéler l'infini dans un corps. Mais nous, que voyons-nous? Le corps. Quand vous me regardez aujourd'hui, vous ne voyez pas ma Neshama, vous voyez mon corps. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était ma femme. Même l'aspect physique que je suis, c'est mon côté féminin. Car il a dit, mon côté masculin, c'est ma pensée. Donc en réalité, on ne fait que voir des femmes toute la journée, même en regardant les hommes. Toute la journée, le monde entier est une grande femme. C'est tout ce qui existe au niveau du réel. Car en réalité, nous ne voyons que des vêtements, que des corps. On est censé comprendre qu'à l'intérieur se cache une neshama. C'est ça qui est invisible. Ce qui est visible, c'est le corps. Ce qui est visible, c'est ce qu'il y a devant moi. Et sur ce corps-là, il y a encore des vêtements. Et c'est pour ça que vous vous habillez. Car il y a une règle, et je vous la donne maintenant, pour dévoiler quelque chose, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose de paradoxal, il faut le cacher. Et donc, à chaque fois que vous sortez pour vous révéler aux gens que vous allez voir, vous vous cachez, vous vous déguisez, vous vous mettez plein de couvertures. Ça s'appelle des vêtements. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous voit si vous vous cachez? Eh bien, c'est là le secret de ce monde. Pour voir quelque chose, il faut l'habiller. Les lettres de l'alphabet, ce sont des valeurs infinies. Et pourtant, pour les voir, il faut les mettre en noir. Donc on leur offre un vêtement qui est l'encre. L'encre noire va être le vêtement des lettres. Et sans ce vêtement des lettres, on ne peut pas lire dans le livre. Alors qu'en réalité, les lettres, vous comprenez bien qu'elles existent sur le parchemin, même avant d'avoir été peintes en noir. Le parchemin en lui-même contient tout. Seulement, on n'a pas habillé, donc on ne sait pas lire. Vous savez lire le blanc? Non. Vous lisez le noir. Mais en réalité, votre cerveau lit le blanc. Sachez-le. Et si on était capable aujourd'hui d'entendre les choses telles qu'elles, eh bien, on n'aurait même pas eu besoin de peindre les lettres en noir. On aurait dû lire le blanc. Et quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui c'est lire entre les lignes, entre les lettres, il voit dans le blanc. Autrement dit, si je traduis ça par le silence et le verbe, eh bien, un élève de très haut niveau est censé entendre les silences de son âme. Et non pas les moments où son âme parle. Parce que quand il parle, automatiquement, il habille. Et donc, quand il habille, il imite. Et donc il va fermer, guider à un vêtement. Et combien de vêtements vous avez dans la mort? Généralement une femme, elle n'a jamais assez. Elle se dit, j'ai rien à me mettre. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez différentes manières de vous révéler. Et c'est pour ça que la personne vous fait choisir quelques vêtements lui aussi. Il en a 10. Ce sont ses noms. À chaque fois que vous voyez le nom d'Hachem, un des noms, eh bien, vous vous dites, ça c'est un vêtement. Mais quand la Kadosh Baruch s'habille par le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, vous savez qu'aujourd'hui, il est dans un état de bonté. Il a envie de partager, profitez-en. Mais si vous le voyez dans le nom de Adon, c'est Midakra, Din, alors il est dans un moment de rigueur, il est dans les limites. Alors ces vêtements, c'est comme un roi avec un vêtement rouge, vous savez, qui sort en guerre. Adonai Ishir Hama. Vous comprenez comment ça marche? Donc toutes les lettres sont des vêtements. Donc encore une fois, les lettres de l'alphabet, elles aussi sont féminines. Osnos. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit une femme en araméen? Iteta. Comme une lettre. C'est-à-dire qu'une femme est une lettre. Pourquoi? Parce que les lettres, ce sont des vécus. avec lesquels je vais venir vers un degré, un autre. Regardez, je suis en train d'être accessible à vous sans vous toucher, juste avec des lettres. Mais c'est important, c'est un miracle. Comment est-ce que ça se passe? Je suis en train de vivre des lettres et ça vous amuse, ça vous rentre à l'intérieur, vous souriez, vous faites des grimaces. C'est incroyable. C'est un grand secret. C'est-à-dire que j'utilise encore une fois une armée de femmes qui s'appellent donc les lettres pour vous être accessible. Et d'ailleurs, le mot Aska, qui a donné naissance au mot Otiyot, en hébreu veut dire venir. Aska. Dans la Gemara, Aska Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est venu. Donc, les lettres, ça sert de cause. C'est un véhicule de transport. Et on fait du train, on monte, on stoppe, dans les lettres de l'alphabet. C'est comme ça qu'on arrive à monter, à monter, à monter. Donc, vous rêvez avec des lettres, vous pensez avec des lettres, vous parlez avec des lettres. Tout ce que vous faites dans votre vie, ce n'est qu'avec des lettres. Et donc, tout ce que vous faites n'est que féminin. Mais il fait voir un côté masculin qui est caché. C'est clair ce que je suis en train de dire? Donc, à partir de ce monde féminin, à partir de ce double qui est dans ce monde, c'est-à-dire un vêtement, je dois retrouver le masculin qui est caché. On est d'accord? Il ne s'agit pas de rester seulement dans les vêtements. Il faut comprendre ce que les vêtements contiennent. Donc les vêtements ne sont pas vides, ils contiennent quelqu'un. Et donc à partir des vêtements qui sont dans la lettre P, je dois retrouver l'unité divine qui est dans la lettre A. Donc si j'écris inversement le P vers le A, je viens de créer un mot, Ba, qui veut dire venir. C'est la notion de Olam HaBa. Qu'est-ce que c'est le Olam HaBa? C'est tout simplement à partir du monde de la souveraineté, retrouver le monde de lui. Ok? Donc dès que Dieu parle, lui il est dans le 1, donc on ne le comprend pas. Et donc dès que ça traverse l'atmosphère, le 1 devient 2. Toujours. Dieu donne une Torah. Dès qu'elle traverse l'atmosphère, ça devient deux tables. Pourquoi? Il y avait une seule Torah au départ. Pourquoi est-ce que c'est devenu deux tables? Pourquoi dans ce monde il y a la Torah écrite, la Torah orale? Il y a le ciel et la terre. Tout ce que Dieu a créé, il a créé en deux. Pourquoi? Mais justement parce que la sortie du 1, c'est automatiquement être dans le 2. Et le 2, c'est un côté féminin, car c'est la lettre V, qui est sous forme d'un cri, d'un contenant. Et ce contenant-là va donner des limites pour qu'on puisse recevoir quelque chose de l'infini. Car l'infini, comme son nom l'indique, est infini. Donc pour recevoir un tout petit peu de lui, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Un ustensile avec des limites. Donc l'ustensile avec les limites, comme un verre, et ce verre-là, doit contenir quelque chose. Je ne peux pas boire toutes les eaux du monde, mais je peux boire ce que ce verre contient. C'est à mon degré d'homme. Si je rentre ma tête dans un fleuve, je vais tout. Donc on m'a donné juste la limite dans un verre d'eau. Vous savez quelle est la limite du kiddush? Le verre normal doit contenir 86 grammes d'eau, centilitres. Donc, qu'est-ce que c'est 86? C'est un des noms de Dieu, Elohim. C'est en valeur numérique 86. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu infini descend dans ce monde, il se dévoile dans le nom de Elohim. Et donc ça, c'est le secret de la nature. C'est la même valeur numérique. À Terra, la nature, c'est Elohim. Encore un degré féminin. Car Terra, en hébreu, nature, vient du mot circulaire. La femme a une forme circulaire. Elle est ronde par rapport à l'homme. Et donc, Teva, la nature, c'est le mot tava, la base. C'est pour ça que l'homme donne à sa femme une base pour lui dire voilà ton monde à toi. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui donne? Un doigt. Dieu, ça c'est son nom d'être. Donc l'homme est un doigt, il est droit, et la femme est un stèle, c'est une balle. Et donc il se change au moment du mariage, chacun redonne à l'autre ce qu'il est dans sa nature. Et les deux ensemble, c'est la droite et le cercle, une notion extraordinaire, et en mathématiques, et en physique, et bien entendu, dans la Kabbalah. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tous les Yom Hishmat et les Rekhoach Shemot avant de commencer le cours. Tout ce que je viens de vous dire, donc, ce sont deux étages de l'existence. Premier étage, c'est l'étage supérieur, celui dans lequel on n'a aucun accès. Deuxième étage, l'étage inférieur, celui où nous devons le faire. Donc encore une fois, l'étage supérieur, c'est le côté âme, neshama. On n'a rien à faire avec notre neshama. Si un jour quelqu'un vous dit que vous devez arranger votre neshama, sauvez-vous. Il n'y a rien à arranger. Ce matin, vous l'avez dit, et l'oreille de neshama, c'est la katadu, c'est l'oreille. Il n'y a rien à faire dans la neshama. Donc où est-ce qu'il faut travailler? Seulement dans les vêtements de la neshama. Ça veut dire dans le côté féminin. Donc lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, là aussi c'est côté masculin le ciel, idée, féminin la terre. Et où est-ce qu'il y a des problèmes? Sur la terre. Vera are aita tohu vajo. Il n'y a pas marqué à Shamaï. Moralité, tout ce qu'on a à faire dans ce monde, c'est corriger la femme et son homme, et les hommes et les femmes. Avec ce qu'on vient de comprendre, corriger les kelim, les ustensiles, les mesures, les vertus qui sont en nous. Il n'y a rien à corriger d'autre. Si vous avez un bon contenant dans votre vie, vous allez recevoir le liquide adéquat. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez un liquide chaud, brûlant, céleste, il ne faut pas un verre en plastique. On est d'accord? Mais c'est la même chose. Si vous voulez recevoir une grande lumière divine, il ne faut pas que votre contenant soit du plastique transparent. Il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc renforcez vos kelim, renforcez votre capacité à recevoir. Et ça, c'est le côté féminin. Et encore une fois, c'est une phrase de femmes, les hommes et les femmes. Et je vais vous dire plus, les hommes ont un grand problème parce qu'ils ont du mal à accepter leur côté féminin. Et donc, ils ne font pas un travail sur la capacité à recevoir. Donc c'est un manque à gagner chez eux. Alors que la femme, étant donné qu'elle est déjà un cri de réflexion, c'est plus facile pour elle de travailler, et donc elle a gagné en souplesse intellectuelle par rapport à l'homme qui est un petit peu plus rigide. Donc nous avons deux degrés, un degré potentiel, un degré manifesté. Dans la Torah, ça s'appelle la Segula et la Tessira. La Segula, c'est ma chamine sougale, que je suis capable de faire dans ma capacité première, telle que Dieu a voulu que soit. Et dans la Tessira, le choix, qu'est-ce que je choisis dans ma vie pour être fidèle à ce que Dieu a créé dans mon modèle supérieur. Ok, voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde, c'est très simple. Ça veut dire qu'il y a un modèle, je vais prendre mon exemple comme ça vous n'avez pas peur. Dieu a créé un Yoel supérieur, c'est-à-dire avec toutes ses capacités. C'est moi, Yoel. Et maintenant vous voyez un Yoel ici. Donc vous avez un Yoel que vous voyez, mais il y a un Yoel Mitia. Si le Yoel que vous voyez, quand je le mets à côté de le Yoel Mitia, vous voyez comme si c'était un seul verre, j'ai gagné ma vie. Il n'y a pas de décalage entre l'idée de Dieu de me créer et ce que je suis devenu dans ma vie réelle. Vous comprenez? Et s'il y a un petit décalage, aussi petit soit-il, c'est la notion de Gehenna. L'enfer, c'est le décalage entre ma capacité première et ma réalité. Et plus je suis délicat, je suis dans le Gan Eden. Eden veut dire Eden. Donc Gehenom et Gamézen, ce n'est pas l'enfer et le paradis avec des monstres, avec des fours, du club même. C'est pas ça. C'est tout simplement être délicat et fidèle à son premier degré, ou bien éloigné de son premier degré. Et comment on peut savoir si on est fidèle ou éloigné? C'est un travail énorme. Première chose, si vous êtes heureux, si vous savez sourire ou pas. Il y a des gens qui sont toujours la gueule, excusez-moi l'expression. Et il y a des gens qui sourient. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde en haut? Il y a marqué « Shatimha Imono ». À Kadosh Baruch Hu, il est toujours dans le sourire, jamais il fait la gueule. Donc si toi, tu fais la tête toute la journée dans ta vie et que tu es tout le temps en train de râler, pose-toi des questions. Tu es déjà dans un degré décalé par rapport à ce que tu es dans ton essence. À quoi ça sert cet ustensile que Dieu a créé dans la création du monde? Eh bien justement, à dévoiler. À dévoiler qui? Bien, l'infini. Mais attendez, je ne comprends pas l'infini avant de créer ce qui il était déjà. Donc qu'est-ce qu'il a créé exactement? Il remplissait déjà tout. Il n'y avait pas de manque. Mais justement, il prenait tellement de place cet infini qu'il ne laissait de place à personne d'autre et à rien d'autre. Donc la grandeur de Dieu, c'est d'avoir fait une certaine contraction sur lui-même, sur sa nature de réponse. Incroyable. Donc Dieu a fait comme s'il était une femme. Lui-même, il a développé le côté féminin qui est en lui, et il s'est retiré du jeu pour laisser la place à un monde qu'il va créer. Vous vous rendez compte de l'humilité de sa voix sur vous? On ne comprend pas. En tant que parent, avec nos enfants, parfois on prend trop de place. On ne les laisse pas se développer. On ne les laisse pas vivre. Chaque fois qu'ils font un petit truc, on est là. À ta deux fois, vous avez la même chose avec vous? Pas du tout, il est dans le silence total. Regardez comment il vous respecte. Toutes les bêtises que vous avez faites dans votre vie, jamais il est venu, vous avez entendu une voix qui dit « Alors, ma fille, ça va pas, non ?» Et nous, on a peur de ça. Dès que l'enfant fait quelque chose, on est directement sur sa tête. Comment est-ce que vous voulez que l'enfant se développe? Il ne peut pas. Vous lui enlevez le libre arbitre. Donc, ressemblez un petit peu plus à Kadosh Baruch Hu dans l'humilité. Retirez-vous un petit peu pour laisser la place à l'autre. Tout ce que je viens de vous expliquer avec des mots simples, dans la Kabbalah, ça s'appelle le tzimtzum. C'est-à-dire la contraction. Écoutez bien les mots, c'est une contre-action. Son action normale, c'est de se répandre, et là il a fait une contre-action. Il est allé à l'inverse de sa nature pour nous laisser la place, pour qu'on sente que ce monde est sans lui. J'ai droit de savoir que ce monde est sans lui, pour pouvoir, moi, être. Et c'est pour ça que le monde s'appelle Olam, en hébreu, Me'elam. Il est caché. Dieu est caché dans ce monde. Pourquoi il s'est caché? Pour me laisser la place d'être. Parce qu'il était trop présent, il n'aurait pas pu exister. Allez, d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez. J'ai des versets. Parce qu'il veut. Des références. Donc le côté masculin et féminin, c'est en réalité ce qui gère toute la création. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que Dieu a fait, il y a marqué Zachar, ou Nekeva, Bara, Ota. Vaïtrachman, Adam. Quand vous dites aujourd'hui en hébreu Adam, vous avez l'impression qu'on parle d'un type. Adam, c'est mâle et femelle. Les deux ensemble s'appellent Adam. Et pas seulement le côté masculin. Et donc, lorsque Chava va tomber dans la faute du serpent, alors on a l'habitude de vous dire c'est la femme qui a sauté, c'est faux. C'est le côté féminin de ce couple qui s'appelle Adam. Autrement dit, où est-ce que le serpent va venir frapper? Dans le côté féminin de l'homme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans ses vêtements, dans ses kélim, dans sa manière de recevoir. Parce qu'il y a un trou dans le verre, eh bien, l'infini ne peut plus le remplir. Donc je dois faire attention, toujours, de faire attention à mes kélim, à mes vêtements. Et d'ailleurs, dans la halakha, on n'a pas le droit de mettre un vêtement troué. D'accord? Pas bon. Pas bon. c'est bon, je suis là encore.
C'est comme ça.
Il faut que je prenne vite le contrôle. J'ai compris comment ça marche. Elle m'a fatigué là, il j'avais oublié que c'était des femmes. Donc. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un cours que j'ai écrit précisément pour vous. Amen. Et il est sur 50 points. 50 points, j'ai marqué que des initiales, juste pour me faire à moi un petit récapitulatif. Bien entendu, je ne sais pas si on va arriver à développer ces 50 points, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais l'origine. Donc, tout le but même de la création, c'est de dévoiler l'infini dans ce monde. Ok. Comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce processus? Ben, ça a un nom. Malchut, la royauté. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire au Shoshana ou au Knesset? Couronner l'infini roi. C'est-à-dire lui permettre d'être roi. Question, il a besoin de nous? Réponse, oui. Car un roi a besoin de sujet. Et le sujet qui n'accepte pas le roi, ce n'est plus un royaume. C'est quelque chose qui est fort. C'est pour ça que nous avons un verset où Malchuto, personne qui gloit la vie. Sa royauté, ça doit être par ta volonté. Tu le veux bien qu'il soit ton roi. Donc, Rosh Hashanah, on ne vient pas demander pardon, on ne vient pas rappeler nos forces, on ne vient rien faire au Beth Knesset, si ce n'est que de le couronner roi, et comme je viens de vous l'expliquer, ça veut dire d'accepter que ses valeurs à vie de l'infini deviennent les miennes. D'accord? Ça veut dire que si lui pense que faire ça c'est bien, je dois arriver dans ma vie à penser la même chose. Et s'il pense que ça c'est mal, je devrais arriver à la même conclusion dans ma vie. Si j'ai une conclusion différente que la sienne, sachez tranquillement, pour assurer que le problème est chez nous. Ça c'est lui. C'est-à-dire dans notre capacité à recevoir ou à ne pas savoir recevoir. Comment on dit recevoir en hébreu? L'irsos. D'accord? Vouloir recevoir. L'irsos est la bête. L'irsos. Donc, la racine, c'est le mot rasson, qui a donné naissance au mot eret. Eret ne veut pas dire une terre géographique seulement, mais de dire un bien. Donc, lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, sors du Eretz dans lequel tu es pour aller au Eretz que je t'indiquais, vous comprenez ce que ça veut dire? Sors de ta volonté qui en réalité celle que tu croyais à ton niveau humain, moi, l'Éternel, je vais te donner une nouvelle volonté. Et c'est la terre d'Israël, où se dévoile la véritable volonté de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, n'oubliez pas que la Torah parle à plusieurs degrés. Il ne faut pas l'étudier seulement comme un texte historique. Sinon, c'est n'importe quoi. Il faut comprendre que la Torah parle d'une manière codifiée à tous les étages. Si vous allez endormir votre, vous avez envie de faire endormir, de faire dormir votre petit garçon, votre petite fille, vous lui racontez des histoires. Mais le garçon et la petite fille savent que vous parlez d'une manière allusive. Un jour, il y avait un petit garçon, il n'était pas très gentil avec sa maman. Lui, il commence à se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de me préparer? Il connaît déjà, il comprend. Mais c'est la même chose, la Torah, quand elle nous dit, vous savez, il y avait un peuple qui n'était pas très sympa. Dieu leur donnait une grande lumière, ils vont pas bouger des chibots. Et Dieu, nous, qu'est-ce qu'on est censé savoir et comprendre? Et qui parle de nous? C'est que parfois, Dieu nous donnait des choses tellement importantes, et moi, qu'est-ce que je fais, je suis une vache à la salle. Un taureau, un chibot, je fais n'importe quoi. C'est ça que la Torah vient nous dire. C'est comme une histoire que Kadosh Baruch Hu nous raconte avant d'aller dormir. C'est ça, Tata? Ça va? J'ai ma tante qui est là. Ça veut dire qu'en réalité, la royauté de Dieu se dévoile avec tous les éléments qu'il y a dans ce monde. Alors je vous pose une question très simple. Combien d'éléments ce monde contient?
Une infinité?
Non. Trois. Trois éléments. L'espace, le temps et l'homme. L'identité. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé en réalité ces trois degrés. L'espace, à l'intérieur duquel je vais faire quelque chose. L'homme, l'identité, et le temps. Et tout ça, c'est englobé dans la lettre V de Bereshit, puisque Bereshit peut se traduire Bezor Bereshit, à l'intérieur d'un espace, qui s'appelle Bereshit. Bereshit peut dire aussi Bentaout, par l'intermédiaire d'un degré qui s'appelle Bereshit, et on sait que c'est Israël, dans une identité. Et Bereshit, au début d'un commencement, s'introduit la notion de temps. Donc nous avons réalisé trois éléments dans ce monde uniquement. Les Chassidim appellent ces trois éléments Ashan, Olam, Shana et Nefesh. C'est tout. Ça s'appelle de la fumée en hébreu. Et donc lorsque le mont Sinaï était tout entier en fumée, ça ne veut pas dire qu'il est en train de nous raconter un film d'Indien et de Cowboy. Ça veut dire tout simplement que sur le mont Sinaï se sont réunis tous les degrés de ce monde. Le temps, l'espace et l'identité humaine. Pourquoi est-ce que ça? Eh bien, si vous voulez couronner Dieu à Rosh Hashanah, par la Malkout, Malkout en hébreu est féminin, Marcela. Oh, encore une femme. Même la Malkout est féminin. Ça veut dire que lorsque Dieu, entre guillemets, descend dans ce monde, qui se révèle dans ce monde? Quel côté de lui? Son côté féminin. Et vous savez ce qui c'est son côté féminin? C'est nous. C'est l'Assemblée d'Israël. Qu'on appelle aussi une femme, Knesset Israël, Bat Zugo. Sa compagne, sa Bat Zug, sa Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on a un lien d'homme et de femme. Nous sommes son épouse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'épouse est censée révéler ce que l'homme lui apporte. Eh bien, nous aussi, l'Assemblée d'Israël, on est censé révéler les valeurs de notre homme dans ce monde. Car, est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. Il n'a pas de corps. Il n'y a rien à voir. Alors, comment est-ce qu'un jour vous allez voir Dieu? Par sa manifestation. À travers qui? Le peuple d'Israël. Donc Dieu dans ce monde, écoutez bien, c'est le Zohar qui nous dit ça, Dieu dans ce monde, c'est l'Assemblée d'Israël. Quand vous regardez le peuple d'Israël, vous voyez les actions de Dieu. Rien d'autre à voir, vous ne verrez jamais rien d'autre. Même le Mashiach, c'est un Mélèque. C'est un roi qui révèle la royauté, donc lui aussi qui est féminin. Et il vient révéler donc les valeurs du grand homme à Kadosh Baruch Hu. Cette descente, cette révélation dans la Malkout, dans cette royauté, doit se faire au niveau du temps, de l'espace et des airs. On est d'accord? Alors, la Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Retour. Elle est féminine ou masculine? Oh là, encore une femme. La Teshuvah est une femme. Oh, on ne s'en sort plus. La Géoula, homme ou femme? Femme. Oh, mais c'est incroyable. La Mechila, la Tricha, la Kapara. Mais c'est toutes les femmes. Un mec normal se sort. Il est en train de comprendre que tout ce monde est féminin. C'est incroyable. D'ailleurs, Yom HaKippourim, au singulier, c'est quoi? Kapara. Donc c'est une femme. Donc si j'écris Mechila, quelle est la première lettre? Mem. Slicha, quelle est la première lettre? Tamer. Kapara, quelle est la première lettre? Ka. Je viens d'écrire un mot, Matta, un écran. C'est-à-dire quand je demande Mechila, Slicha et Kapara, j'arrange l'écran de ma vie pour que Akadosh Baruch Hu projette son film. Et sinon je deviens un écran Hazbechalov qui ferme, qui fait obstacle à la lumière divine. Ça ne marche pas.
Donc on vous demandait à quelqu'un, Mechilat, Isha et Kafara, c'est pas trois termes pour dire la même chose, si j'ai contourné le problème de toutes les manières possibles. Non, c'est pour lui dire à quel autre coup je veux tout nettoyer, je veux que mon écran soit transparent. Je veux que tu te réalises, toi, Kadosh Baruch à travers nous dans ce monde. Alors quand vous faites la Torah appartient à qui? À qui elle appartient la Torah? À Kadosh Baruch Hu. Masculin ou féminin? Féminin.
Il nous l'a donné à
Il nous l'a donné?
Bien sûr, au Mont Sinaï.
Il nous l'a donné au Mont Sinaï. Vous êtes sûr? Moi, je dis tous les matins qu'il me la donne, au présent. Notre Torah. Il ne l'a pas donné. Tous les jours, il continue à me faire descendre des parties. Donc, la Torah, elle est aussi féminine. Et les mitzvot, la mitzvah, elle est féminine aussi. Féminine aussi, ça commence à faire beaucoup, hein. Même la mitzvah est féminine. Bon, question, à qui appartient? Et la Torah, et les mitzvot? À Kadosh Baruch Hu. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une femme ici parmi vous qui a une mitzvah qui lui appartient? Dites-moi la vérité. Vous avez une mitzvah qui vous appartient? Prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi. Moi, je peux vous prouver. Je peux vous prouver qu'il n'y a aucune mitzvah qui vous appartient. Tout simplement quand vous faites la bénédiction. Baruch atah Hashem Elohim Melech Haolam Asher Kidechanu b'mitzvot. Ça, c'est quand c'est mitzvot. Alors imaginez-vous maintenant qu'il se passe, moi l'homme d'Israël, vous femme d'Israël, on applique des mitzvot qui appartiennent à Dieu. Donc il se sert de nous pour descendre dans ce monde. Incroyable. Et donc si je fais ces mitzvot, je fais partie de son équipe. Comment on dit équipe en hébreu? C'est équipage. Donc mitzvah, c'est pas une loi. C'est pour te mettre dans son équipe. Tu fais partie de son équipe. Donc tu utilises tout ce que tu peux pour qu'il se dévoile un petit peu plus. Donc au moment où je suis en train maintenant d'enseigner la Torah, au moment où vous êtes en train d'écouter la Torah, on est en train de faire une mitzvah, hein? Donc on est devenu son équipier. Et donc il traverse tout les mondes pour venir à travers nous et remplir un petit peu plus la terre d'Israël de ses valeurs divines. Donc, depuis ce matin où vous avez commencé les cours, juste pour prendre la matinée, jusqu'à maintenant à la fin de mon cours, il y aura plus de divin sur terre. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est pas que vous avez étudié la Torah, vous avez un petit peu plus de connaissances, non! Il y a de la connaissance qui est devenue, qui est descendue sur terre. Il y a le divin, des kilos de divin, si on pouvait les mesurer, qui sont descendus sur terre. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça se passe? Mais tu sais ce que ça va te faire? Au moment où ça se passe, un soldat devait mourir et il a été sauvé. Parce qu'il y a plus de divin sur terre. Quelqu'un qui était malade, il a été guéri. Une femme qui avait des problèmes dans l'accouchement, ça vient de se passer comme il faut. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui voulait se suicider, il a reçu une simra parce que tout à l'heure j'en ai parlé. Elle dit, c'est pas, et nous on ne sait pas. Mais ça te passe. C'est ça le secret de Ribouille et l'eau. Pas Olam. Faire la Torah et l'Israël, c'est pas faire des actes religieux nerveux. C'est faire descendre du divin sur terre. Et donc, quand lorsque le divin remplit la terre, ça s'appelle Oula. Oumale Ahaare, Bea et Hashem Kamaim Layam Mechatim. C'est que la terre sera remplie comme l'océan qui remplit la mer. Yam, c'est pas l'eau. Yam, c'est le fond de la mer. Et donc, lorsqu'il est rempli d'eau, c'est comme ça que la connaissance de Dieu doit arriver sur cette. Comment est-ce qu'on fait ça? Et puis on devient des canals. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que ça dépend de notre ration. Alors le Zohar nous donne une clé. Il nous dit inverse le mot ration et tu obtiens le mot sinon. C'est-à-dire que vous devenez par votre volonté, par votre désir,
un canal, des canaux par lesquels Dieu descend sur terre. Vous voyez, la Torah, elle est simple, elle est belle, elle est limpide. C'est pas par la peur, c'est pas par les cris, c'est pas parce que je fais comme ça, sinon le bon Dieu va se faire. C'est pas ça la Torah, ça c'est la chrétienté. On n'est pas là-dedans. Akadosh Baruch Hu nous demande juste de ne pas le gêner, il veut descendre, c'est tout ce qu'il veut. Laissez-moi me dévoiler sur terre, ne faites pas au cas. Aidez-moi si vous pouvez, sinon mettez-vous de côté, ne me gênez pas. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est pas de faire des actes et des actes et des actes comme des malades. C'est pas ça. Alors on va arriver maintenant à la tête de l'année. Shana. Masculin, féminin? Féminin. Oh, non, 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 non. Elle n'en peut plus, ça y est. Il y a beaucoup de femmes dans la salle. Non, non, je comprends. Même là, la vieille est une femme. Gibono, c'est l'Orlande. Shana. Rosh Hashana, la tête de la femme. C'est une façade de Shana. Changer. Les Ishtanos. C'est pour ça que l'Assemblée d'Israël s'appelle Shoshana. Et le Zohar commence que Shoshana ben Hapurim, Ken Ariati ben Hapanot. Ma bien-aimée est comme la rose parmi les roses. Et il parle de sa femme. Regardez comme il sait bien parler aux femmes, à d'autres recours. À sa propre femme, l'Assemblée d'Israël. Il dit, tu es une rose parmi des ronds. Et pourquoi il nous appelle la rose, la Shoshana? Bien, le Zohar nous dit, chez Yeshua Koach, les Ishtanot. Parce qu'elle est tout le temps dans la souplesse, elle arrive à changer. Mais quand ça marche pas comme ça, c'est autre chose. Elle est pas rigide. Une femme qui tient tête, qui est rigide, qui n'a pas cette souplesse, elle a perdu son côté féminin. Il faut faire très attention. Et beaucoup de couples se cassent la figure à cause de ça. La femme, elle est intelligente, elle a un côté de chignon. Elle sait se placer, elle sait se tourner, comme la Shoshana, là où il y a la lumière, elle tourne. C'est important de savoir ça. Ça veut dire que ça fait d'autres fois attendre de nous, en sachant que nous sommes une fleur, c'est-à-dire de temps en temps, je sais, et de temps en temps, on s'ouvre. C'est comme ça que ça marche une fleur. Donc si nous comparons une fleur, ça veut dire que pendant la nuit, on se ferme. Et pendant le jour, on s'ouvre. Or, le Zohar nous dit que la nuit, c'est l'exil, et que le jour, c'est la Géoula quand on revient sur notre terre. Donc, l'Assemblée d'Israël était fermée pendant 2000 ans. Et depuis 70 ans, elle est en train de se réouvrir pour Hachem. Il faut qu'on fasse partie de ce processus qui est magnifique, qui en plus de ça, maintenant, vous avez choisi au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, donc il y a tout, pour réussir ce processus dans lequel on est véritablement au bout. On arrive vraiment à la fin. Mais, il y a un danger. Comment est-ce qu'on dit oublier en hébreu? Et je crois que c'est dans l'hébreu facile. Un hébreu un petit peu plus délicat. Je vais vous aider. Neshia. Neshia veut dire oubli. Nashani, il m'a oublié. Comme en arabe, Nisha, il a oublié. Or, le mot Neshia, il est aussi féminin. Et là, c'est Nashim. Les femmes, ça veut dire qu'il y a un danger dans tout ce que je viens de dire pour le clic que vous êtes, que nous sommes, c'est d'oublier. Alors pour ne pas oublier ce qu'on est venu faire, Dieu a trouvé une combine. Il nous a dit, le premier jour de l'année, je vais lui faire se rappeler. Comment on appelle le premier jour de l'année? Yom Hazikaron. Le jour du souvenir. Vous allez ouvrir vos marzorines de Rosh Hashanah, il n'y a pas marqué une seule fois Rosh Hashanah dedans. C'est juste sur la couverture. Toutes ces filotes, il n'y a pas le mot Rosh Hashanah. Tout ce qui a marqué, c'est le Yom Hazikaron Hazé. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la femme, pour réussir son rôle, elle doit se souvenir. Et qu'est-ce que c'est ce souvenir, Zikaron? Ça vous fait penser à quel mot? Zahar. Qu'est-ce que c'est Zahar?
Le masculin.
C'est-à-dire tout ce que j'ai dit maintenant au niveau du féminin, c'est très beau, c'est magnifique, la condition de ne pas oublier que vous êtes le vêtement d'un homme. Que vous êtes le pli qui révèle un homme. Alors je ne dis pas seulement au niveau de votre foyer personnel, mais je parle de nous en tant que femmes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Lui montrer que nous sommes creux, comme une femme. Vous savez que la femme s'appelle Nekeva, qui veut dire un creux. Nekev. Qu'est-ce qui est creux le premier jour de l'année? La seule mitzvah que nous ayons au Shachana, le chauffard. Donc le chauffard, c'est l'élément par excellence qui fait conduire la lumière divine pour nous l'amener dans notre monde. C'est incroyable, en français, c'est le mot des conducteurs, le chauffard. Et en hébreu, c'est le meilleur conducteur. Comme par hasard. Qu'est-ce que j'ai vu un chauffard sur la route? Le petit café la bracha? Non! Mais le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Un chauffard en français, ça veut dire un mauvais conducteur. Alors que le chauffard, ça vient du mot les riches, ça fait, s'améliorer. Vous savez comment ça marche, un chauffard? Vous avez déjà vu un chauffard? Vous savez que ça vient? Quoi, on a pris une corne, on a pris une perceuse, on a fait un trou? Non. On a tout simplement enlevé la corne à l'animal. L'animal, lui, reste avec une petite corne sur laquelle était habillé le chauffard. Donc le chauffard est féminin, c'est un vêtement. Et qu'est-ce qu'on retire du chauffard? Une petite membrane qui est, elle, masculine. C'est la membrane de l'homme qui reste chez l'animal. Et on la tire complètement. Mais le chauffard est déjà fait. Ça veut dire que le chauffard, par excellence, est une femme. C'est un produit divin de la femme. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on demande que le chauffard soit? Courbé. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se sonner avec un chauffard droit. C'est pour ça que le chauffard est courbé. Pourquoi? Parce que quand tu t'approches devant la lumière de l'infini, d'être un petit peu courbe-toi. Sois dans l'humilité, parce que tu es un cri maintenant pour recevoir cette grande lumière. Et lui, c'est l'humilité par excellence. Si tu deviens orgueilleux, ça marche pas. Donc l'orgueil repousse Dieu. L'humilité attire le vivant. C'est pour ça que mon cher Abel, qui était l'homme le plus humble, il a attiré le maximum de divin. Donc plus on se fait petit, plus sa cabose va au mouvement. Ceux qui courent après le cabose des débuts. Ceux qui se sortent le cabose leur court après. C'est très important à votre âge. C'est-à-dire le plus grand ennemi de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est l'ego. Et l'humilité, c'est de savoir aussi se mettre en retrait et laisser place aux autres. Connaissez l'histoire de ce fameux roi qui voulait donner un trésor et avait à peu près une salle remplie comme ça de gens, et il a rempli une pièce avec des ballons gonflables. Et il a écrit les prénoms de chacun sur chaque ballon. Et il leur a dit, vous avez 5 minutes pour aller chercher le ballon sur lequel votre nom est inscrit, et vous le rapportez et je vous donne mon grand trésor. Et bien entendu, au moment où ça a sonné, tout le monde a couru, la panique totale. Va retrouver ton ballon parmi 200. Donc, et des ballons en train d'exploser, les gens se marchent sur les uns les autres, un chien au bout de 5 minutes. Stop, 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 il n'y a pas de réussite. Il y a un qui est avec un ballon, il ne sait pas le tuer, un ballon, excusez-moi. Et le roi leur dit, mais j'ai une autre surprise pour vous. J'ai fait la même chose dans une autre pièce. Maintenant, je vous demande d'aller chercher n'importe quel ballon. Tout le monde est rentré tranquillement, très rapidement. Alors, dans le ballon de Yoel, il y avait marqué Rivka. C'est pas grave. J'ai
mis Yoël de côté pour donner la place à Rivka. Donc j'ai fait un acte d'amour gratuit. Eh bien, tout le monde est sorti avec des ballons. Il n'y a pas un qui a explosé. Ça, c'est la différence entre le guéri homme et le Gan Eden. Dans le guéri homme, chacun pense à soi. Dans le Gan Eden, chacun pense à l'autre. Et après, même quand on est dehors, j'ai pris le ballon de l'autre. Et alors, je vais prendre le verre sous coffre. Sous coffre, féminin ou masculin? Je vous ai fait toutes les fêtes de Michel. Vous savez ce qu'on faisait? On mettait les goulabines à l'entrée du bête à visage. Aujourd'hui, oh, bon, si tu prends le loulard de ton mari, il est bien fou, il a marqué son nom de partout. Hein. Au bête à visage, il y a tout un ça. Chacun mettait son loulard, le lendemain matin, en faisant prendre n'importe quel loulard. Regardez la force, c'est pas facile, vous le dis, moi. Parce que quand t'as choisi un loulard, tu te dis, ah, cette année, va où Hachem, j'ai un truc, le lendemain, tu te prends un petit bout de balai, tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Tiens? C'est pas facile. Alors ça, ce sont des exemples qui vous font rire. Mais regardez jusqu'où ça va à l'intérieur de notre être. Il vous reste 10 minutes, c'est ça? J'aime bien les horaires parce que ça fait partie des mesures. Un chiot, c'est une mesure. C'est ça la traduction du mot chiot. C'est mesure, chiot. Et donc si je ne respecte pas le chiot, la mesure, il y a un problème. Il y a des gens qui ont des rendez-vous après, je n'ai pas envie de leur voler le temps. Et donc je suis là, puis, du moment où on m'a prisonné, au moment où je dois sortir, sans voler la place de cet homme, vers un chiot. Vous êtes fatigué ou ça va? Je peux m'arrêter. Hein? Donc. Je vais vous raconter une histoire que nous raconte Rabbi Abraham Ibn Ezra. Allah le Shalom. Il nous dit, vous savez, la création du monde, c'est un accouchement. Comment? Eh bien, le monde, c'est le bébé. Il était dans un ventre de l'infini, et à votre cou a fait grandir ce bébé dans son ventre, et au moment de l'accouchement, ce bébé est sorti. Et ça, c'est la création. Et il dit que le mot bria, livor, veut dire couper. Comme quand on coupe le bébé de sa maman. Donc, en hébreu moderne, on appelle ça l'itouk, qui est les mêmes lettres que l'inok. Pour faire un petit coup, ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que chacun vient dans ce monde pour faire une certaine réparation, donc il est obligé d'être déconnecté de sa maman. Or, au moment où le bébé est déconnecté de sa maman lorsqu'il est dehors, il est en danger de mort. Car quand il était dans le ventre, il était nourri directement par sa maman, c'est un cordon ombilical. Mais à l'extérieur, si la maman ne revient pas nourrir son bébé, il va mourir. Alors que fait la maman avec sa bonté? Elle revient vers son bébé et elle lui donne le sein pour le nourrir, pour qu'il continue de vivre. Donc dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, le monde est pareil. À Kadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, a mis au monde un bébé qui s'appelle Olam. Et comme ce bébé a été déconnecté de la grande maman, il faut que la grande maman, en l'occurrence l'infini de l'histoire, revienne nourrir ce bébé par son sein. Et donc le retour d'Akadosh vers le monde qui est son bébé, ça s'appelle la Teshuvah de Dieu. Donc Dieu fait Teshuvah. C'est-à-dire il fait son acte de retour vers le bébé qui vient de naître. C'est magnifique. Et donc, qui est le premier de l'histoire à faire Tshuva? Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que c'est donc faire Tshuva? C'est le retour de Dieu dans le monde. Alors, où est-ce que s'inscrit votre petite Tshuva individuelle? Eh bien, tout simplement dans ce grand mouvement. Aider la grande maman à revenir nourrir son bébé. Tadarabah.